Je lis dans Jean 14, les versets 15 à 27. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. »
Remettons Paul dans la prière. Seigneur Jésus, merci d'avoir envoyé ton serviteur Paul pour nous parler aujourd'hui. Et Seigneur, que tes paroles soient dans sa bouche, que ton esprit soit dans son cœur, Seigneur. Et merci pour sa présence, merci parce que toi, tu es là aussi. Amen.
Amen. Merci de m'avoir invité. C'est un bonheur sans cesse répété quand j'ai l'occasion d'annoncer la parole de Dieu. De rendre culte avec vous aussi, c'est une joie, ici à Mérin, avec beaucoup d'amis que je connais depuis les nombreux camps avec qui j'ai passé des heures remarquables à Valouse ou ailleurs, de rendre culte aussi avec des membres de ma famille, Marion, ma fille et les siens qui habitent à Gy, et puis cerise sur le gâteau avec mon petit-fils Tonino, qui vient de rentrer, je n'avais pas encore revu depuis 6 mois, d'un demi-tour du monde. On a prié pour lui, le voilà debout parmi nous. Moi aussi, je suis debout, vous avez prié pour ma colonne vertébrale, tout va bien. Un bonheur aussi d'être avec Roger, que j'ai appris à connaître quand j'étais pasteur à l'église libre de Neuchâtel. Heureux le pasteur qui est pasteur de cette église. Ceux qui aiment Jésus aiment ce que Jésus aime. Ils aiment sa parole, ses commandements, ses pensées, ses dispositions intérieures, son enseignement absolument conforme dans la droite ligne de la volonté de Dieu. Parfait. Son comportement, son exemple, ils aiment son style de vie, parce qu'il est libre, Jésus. Ah. Il n'est pas formaté par de vaines traditions. Il observe de bonnes traditions. Il est glorieusement dépréoccupé de l'opinion que les gens pourraient avoir de lui. Aucune démagogie. Il a une sûreté, une audace, courage. Ceux qui aiment Jésus aiment sa vie de piété personnelle, ses temps de prière intimes, et sa fidélité à la piété communautaire, sa petite communauté. Et ils cherchent à penser et à agir comme Jésus pense et agit. Ceux qui aiment Jésus sont préoccupés de ses intérêts à lui, avant que d'être les récepteurs de ces bénédictions. Christ est leur vie. Ils ont été décentrés d'eux-mêmes, et leur centre est en Christ. C'est ce que Paul exprime en disant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je fais toujours ce qui lui plaît, dit Jésus de Dieu. Le Fils ne fait rien de lui-même. Le Père lui montre ce qu'il doit faire. Alors si vous, vous m'aimez, de même, vous garderez mes paroles, vous garderez mes commandements, qui ne sont pas là pour vous étriquer, pour vous resserrer, pour vous empêcher de vivre, non, pour vous faire découvrir une glorieuse liberté. Tout m'est permis. Ah, c'est la liberté. Mais il ne me laissera servir par rien. Et c'est encore la liberté. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles. La nuance, ma parole. Quelqu'un m'aime, il aime toute la parole. La Bible, c'est un régal. J'ai 74 ans, je m'en régale encore. Et je la découvre encore. Celui qui n'aime pas le Seigneur, il n'a que des paroles. Ceci, celle-là, celle-là qu'il ne veut pas accepter. Il ne garde pas les paroles. Il vit une illusion de communion au Seigneur et se trompe lui-même en croyant qu'il croit. Celui qui n'est pas dans le commandement du Seigneur, dont le premier est l'amour. Difficile quand même, cette obéissance. Dure, dure. C'est pourquoi Jésus ajoute, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Ce n'est pas une bonne traduction. « Consolidateur, un paraclète en grec, un défenseur qui parlera à votre place devant les menaces de l'ennemi, les accusations du diable. » Et au tribunal de votre propre conscience, quand elle vous accuse, le Saint-Esprit répond pour moi. Et il dit, celui-ci, il est au Seigneur. Un autre défenseur, c'est-à-dire un autre moi-même, puisqu'il dit un autre. Vous l'avez déjà, celui qui répond à votre place, face à l'accusateur. Il est avec vous. C'est le 17, la fin du 17. Il demeure près de vous et sera au futur en vous. Il demeure près de vous parce que tant que je suis là à vos côtés, l'Esprit Saint est avec vous. Mais quelque chose va se passer pour vous qui sera meilleur. Il va venir en vous comme il est en moi. C'est pour ça qu'il dit, c'est avantageux que je m'en aille. Ce sera mieux que quand j'étais avec vous. Alors évidemment, si vous êtes chrétien, ce n'est pas tout à fait adapté à ce que vous êtes. On ne va pas dire que l'Esprit n'est pas en vous. Si vous avez vécu une réelle nouvelle naissance, une réelle conversion, si vous avez été baptisé dans l'Esprit, immergé, enterré, dit le texte, dans l'Esprit, par le baptême, qu'il signifie l'Esprit Saint, est en vous, et a marqué un passage d'avant à après. Cette parole est adressée à qui? Il faut toujours lire les paroles dans leur contexte. À 11 disciples, juste avant la Pentecôte. Et c'est la promesse. Et juste avant la croix, on est là dans le dernier discours de Jésus. Et il va dire les choses, puis c'est le dernier, les plus importantes que nous retenions. Il est là pour, la dernière fois, et leur parle de l'Esprit Saint. J'avais titré, mais je suis un petit peu comme mon amas de nœuds, je tire un petit peu sur plusieurs ficelles, le Saint-Esprit se méconnu. Méconnu, juste dans l'Église. J'ai lu il y a quelque temps un rapport sur la marche d'une Église. et les perspectives d'avenir. Je n'ai pas vu une seule fois le nom de l'Esprit signalé. Mais l'Église, mes amis, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. 64 fois dans le Nouveau Testament, on en parle. C'est une création de l'Esprit du Seigneur, l'Église. Et la vie de l'Église, c'est la vie de l'Esprit-Saint en chacun de ses membres et dans la communauté réunie. Et les perspectives d'avenir, c'est ce que l'Esprit veut nous révéler, nous montrer, nous faire connaître. Les choses essentielles. Alors, en cette fin de parcours, de cette aventure extraordinaire que les disciples ont vécue avec Jésus, j'admire, dans cette dernière soirée, il est le maître des événements de cette dernière soirée. À la fin de cette aventure qui les a transformés, maturés, ils ne rentrent pas de ce long voyage la même chose, ils sont partis. Quelle équipe ils ont formée avec Jésus. Quel souffle nouveau s'est emparé d'eux qui a entraîné ces hommes, les a propulsés hors de leur existence habituelle, traditionnelle bien sûr, c'est bien qu'elle le soit, pour les mettre à la suite d'un maître à qui tout est possible. Rien que de le dire, je reviens 49 ans en arrière et mon âme se met à grésiller. Le lendemain matin de ma conversion, tout devenait possible. À la suite de ce Jésus qui va les faire vivre de presque de rien, comme des pauvres, d'amour et d'eau fraîche, mais comme des riches, avec le Seigneur. Une puissance d'attraction imprévisible agit tout à coup dans leur vie, les a saisis, efficaces, irrésistibles, là à la fleur de l'âge. Vous vous rappelez comment ça avait commencé? Jésus qui passe, deux disciples qui sont là, c'est tout au début de l'évangile de Jean, ils voient passer, ils se mettent à suivre. C'est même pas arrêté Jésus, moi à sa place. Puis quand il voit, mais seulement quand il voit qu'on le suit, il se retourne. Et il dit que cherchez-vous. Il ne dit pas qui, que. Ils ne savent pas trop bien ce qu'ils cherchent. Je ne savais pas trop bien, moi, quand j'écrivais dans mon journal, en vain, je cherche quelqu'un, quelque chose qui jamais ne viendra. Mais je cherchais quand même, mais je ne trouvais pas. Que cherchez-vous? Ils sont un petit peu désemparés. Ton numéro de téléphone? Non. Maître, où demeures-tu? C'est une simplicité, ce langage. C'est toujours les mêmes mots d'un jeune. Il a un vocabulaire très, très, très restreint. Hein. Maître, où demeures-tu? Venez, voyez, ils allèrent, ils virent où ils demeuraient, et ils demeurèrent. Hein? Mais derrière ces termes, il y a un mouvement, il y a une proximité, ils demeurent. Et dans le texte que nous avons lu, vous avez vu ce verbe demeurer, il vient tout le temps, celui qui demeure dans ma parole. Demeurez en moi. Mais le lendemain matin, André, qui est le premier, il y en a un qui s'appelle André parmi nous. Pas de chance. Ou j'aurais peut-être mis mal à l'aise. Chloé dit, tu as été dire à ton frère ce qu'André a dit. Nous avons trouvé. Nous avons trouvé le Messie, le Christ. Celui dont leurs parents leur avaient parlé, ils ont été élevés dans la foi de l'époque. Instruits et leur enfance, catéchisés, groupes de jeunisés, communautairement élevés dans la saine doctrine, quel privilège! Fidélisés dans la tradition la plus orthodoxe, quel privilège encore! Ils n'ont pas connu la soi-disant liberté, fausse liberté, des jeunes sans Dieu ni loi, avec les difficultés, les peines, les tourments, les désillusions qui accompagne leur existence. Ne dites pas à quelqu'un qui a de la chance, ça fait une conversion brutale. Ben oui, il a de la chance, il a un privilège, bien sûr, mais avant. Alors on dit des... On disait d'eux, qu'ils avaient des jeûnes qui faisaient rudement plaisir. Hein? Ils étaient bien partis pour rouler longtemps. Pour autant qu'ils entretenaient soigneusement leur foi, qu'ils cherchent à la fortifier de toute manière dans tous les domaines pour pouvoir résister dans les temps mauvais. Et quant aux disciples, puisqu'ils avaient fait, ils avaient été formés, équipés pour résister à ce qui était devant eux, à l'épreuve la plus terrible, celle de Jésus bien sûr, mais qu'eux vivraient jamais. Même quand Pierre, capturé, c'est la légende qu'il dit, mais c'est peut-être juste, elle avait sa crucifixion, lui, le renégat qui dit, vous voulez me crucifier, d'accord, crucifiez-moi la tête à l'envers parce que je suis pas digne d'être crucifié comme mon maître. Quel changement. On fait une petite pause musicale. Mon ami Henri Bachet dans la salle. Il a l'art de stimuler nos neurones. Hein? J'ai lu hier soir sur Internet quelque chose qu'il a écrit sur les 7 bons conseils pour couler une communauté. Favoriser la culture de l'écrit plutôt que celle des masses médias, d'Internet, téléphonie. Secondement, se comporter comme un instituteur spirituel qui applique des méthodes scolaires du passé. J'ai été 15 ans instituteur. Soyez méfiants à l'égard de YouTube, Facebook, Twitter et du monde des images en général. C'est pas ma chance, moi. Les moyens médias, ça joue jamais. Je perds un temps fou. Alors je vais quand même me soumettre à... Je vais vous raconter une histoire pour vous divertir avant de vous convertir. C'est une histoire à moi. Ayant la moitié de l'âge que j'aurai exactement vendredi prochain... Quand les jours commenceront déjà à diminuer, je possédais une grande vieille Peugeot familiale 404, une 7 places d'occasion pour transporter nos 4 filles, leur maman et l'autostoppeur ou stoppeuse occasionnelle. Voiture d'occasion, donc, un missionnaire Madagascar en congé me l'avait revendue pour pas cher du tout. Je l'avais confiée au pinceau d'un carrossier français et elle en était revenue d'un blanc éclatant. Or, on sait que ces limousines Peugeot sont infatigables. La mienne, il y en a une au musée, Peugeot, qui a fait 340 000 kilomètres. La mienne était aux environs de 12 fois 12 000. Quand je l'ai prêtée à un ami pour effectuer un voyage en France, mon véhicule a tenu toutes ses promesses sur le parcours, sauf un tout petit incident sans gravité qui lui est arrivé. Ça arrive à tout le monde de l'être un jour crevé. Alors, on a beau avoir 3 roues, il vaut mieux s'arrêter. Ni une, ni deux, mon ami, costaud et peu embarrassé, sort le cric, le fixe sous mon fidèle moyen de transport, increvable malgré les apparences, et il tourne. Il m'a raconté la scène. Décidément, il a semblé que le cric mettait longtemps à... jusqu'à ce que ma berline daigne consentir à lever un tout petit peu son aile arrière. Mais elle est pudique. Tout à coup, à la surprise de mon ami et de sa famille stupéfaite, il découvre que la tige du cric avait traversé le plancher rouillé et sortez à l'intérieur sous le siège. L'histoire s'est finie sans histoire, sinon par une belle histoire d'amitié et de générosité. Bien sûr, je n'ai fait aucun reproche à mon ami Armin Souter, qui s'était couché à terre, pour voir ce qui se passait dans les lieux cachés de ma blanche bagnole pastorale. On a bien ri tous les deux, et encore en racontant l'histoire à quelques bons amis. Quant à la conclusion, la prescription, ça date de longtemps, les 10 amis, eux, en secret, ont conclu qu'il n'était décidément pas décent que le pasteur de leur communauté prospère, promène dans les rues d'Aubonne et le village de Lavigny un si vieux carrosse, indigne de sa fonction et faisant mauvaise réputation à leur église et à eux-mêmes. Ils ont réfléchi, ils ont, comme on dit, fait un geste. Rouler comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça roule. Mais la rouille de l'âme, c'est l'habitude. L'habitude, c'est la rouille de l'âme. Avez-vous une âme rouillée? Vous réfléchirez à cette expression. Oui? Non, non. Les disciples ont découvert, soudain, un Dieu vivant et agissant dans la personne de Jésus de Nazareth. Et l'ont expérimenté la foi vivante comme jamais dans leur vécu, un peu routinier obligatoirement, parce qu'il fallait au boulot tous les matins, c'est la condition humaine pour chacun. Jésus ne l'avait pas choisi parce qu'ils étaient des paresseux. Mais les espérances qu'avait allumées entre eux ce Seigneur, au point qu'ils ont tout misé sur eux, et qu'ils se levant, ils décident de marcher sur parole, prenant sa parole au mot. Ce soir, on en est dans les ultimes paroles. Je ne vous laisserai pas orphelin, vous ne serez pas seul. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Un autre, ça veut dire la personne du Saint-Esprit. Pas une vague influence, pas un vague encouragement. Celui, alors là je saute au chapitre 16, écoutez bien, quand il sera venu, lui, en personne, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous avez entendu ce mot glorifié. Et puis, il annonce les paroles. Ça veut dire que quand les paroles de Dieu sont annoncées, Dieu est glorifié. La louange ne s'est pas terminée tout à l'heure. La prédication de la parole de Dieu est une louange, si elle est faite en vérité. Elle est une glorification du Dieu qui a prononcé ses paroles. Et quand nous prêchons la parole de Dieu, quand nous la recevons comme vous la recevez ce matin, nous sommes en train de glorifier le Seigneur qui parle au milieu de nous, tout autant que lorsque nous le louons, ce que nous faisons à juste titre, qui n'est dévalorisé en rien. Mais, je vais jusque là, il y a une priorité, il y a un culte, selon les réformés, mais je crois aussi selon l'Écriture, quand la parole de Dieu est annoncée d'une manière ou d'une autre. Pas forcément comme je le fais ce matin, mais quand même. Il y a culte. Si la parole de Dieu ne retentit pas dans un rassemblement, il n'y a pas au sens formel un culte. Dans l'ordre chronologique, même si ça l'envers ici, ça n'a aucune importance, Dieu parle. Nous l'entendons, nous nous émerveillons de sa parole et nous répondons par la louange, nos cantiques, nos prières, notre humiliation. La parole de Dieu. Alors, je vais finir. Quel est le besoin? Quel est le besoin de votre communauté? Essayez de vous dire qu'est-ce qu'est le besoin le plus pressant, actuel, de notre communauté. Vous en citez deux ou trois dans votre tête, mais un peut-être. Le dernier besoin de ma communauté à Châteaudet, de ma communauté de base, c'était de dire oui ou non aux jeunes qui voulaient mettre des spots lumineux dans l'église pour rassembler des jeunes du dehors. Toute l'assemblée était d'accord, même le plus vieux qui a 95 ans, mon ancien professeur de théologie, qui m'enseignait, en attendant que ses vaches aient fini de boire, assis sur une botte de paille, moi tout jeune converti, et il me disait le salut par la grâce. Et il m'a incrusté dans le cœur le salut pour rien, l'amour de Dieu pour rien, les yeux fermés, la grâce. Tout le monde a accepté les spots, ils ont bien fait. Bien fait. Peut-être même qu'il y aura de la fumée. La fumée, vous savez. C'est pas le besoin essentiel. Annexe. Quel est le besoin essentiel? Premier, si je m'en tiens à ce que nous avons lu, je leur ai fait connaître ton nom. Notre besoin essentiel, c'est pas d'évangéliser d'abord. C'est pas notre témoignage, et si c'est important. C'est connaître la personne du Seigneur. Et le Saint-Esprit nous est donné pour nous introduire dans les relations intimes, interpersonnelles entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi dans le Père, dit Jésus, le Père en moi, moi en vous, vous dans le Père, ça va dans tous les sens. Être un avec lui, ça c'est l'objectif premier. Et se réalise quand la parole soutenue par l'Esprit touche nos cœurs, nous pénètre et nous met dans la présence réelle, sensible, subjective, émotionnelle même, parce que ça touche mon émotion, de Dieu. Ça, c'est votre besoin. C'est le besoin de toutes les églises. Afin qu'ils te connaissent et qu'ils aient la vie. C'est la connaissance qui produit la vie réelle. Le connaissons-nous comme cela? Nous sommes en route. Et son Saint-Esprit est en route. Et je prie que l'Esprit vous amène tous et toutes, et moi avec vous, et ma famille. Ça arrive parce que c'est une promesse, moi. Quand je me suis converti, j'ai une parole qui nous a retourné avec ma femme. Voici, je mets devant toi la vie, et le bien, le mal et la mort, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Et quand j'ai quelques doutes, j'ouvre ma Bible de Deutéronome 30, je me mets à genoux, mets mon doigt sur le verset. Seigneur, c'est toi qui as fait la promesse. C'est toi qui réponds. Prie. Je te remercie, Seigneur, parce que dans notre faiblesse, avec nos moyens limités, notre connaissance partiel, tu nous donnes pourtant assez de clarté, d'illumination du cœur et de l'esprit pour saisir quelque chose des profondeurs de ton amour, de ta volonté de nous faire vivre réellement de la vraie vie. Tu crées en nous le même enthousiasme qu'a saisi les disciples. Si nous sommes rouillés, tu nous répares, tu nous changes, tu nous retapes. Si nous sommes crevés par les circonstances, le deuil, la souffrance, tu es là, tu nous assistes, tu ne nous lâches pas. Tu es vivant au milieu de nous. Je te remercie pour cette communauté qui ce matin, je le sais, saisit la parole. Et je te prie de l'appliquer à aux circonstances particulières que vit chacun. Il prendra ce qui est à moi, dit Jésus, et il vous le communiquera, il vous l'appliquera. Que cela soit maintenant, aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Je vous invite à saisir cette promesse pour cette situation particulière. Le Saint-Esprit prend et prendra ce qui est à Jésus ressuscité, à Jésus qui vous aime, et il vous le communiquera, il vous l'appliquera. Amen.
Heureux celui qui te connaît tout premièrement. Quel privilège!